dit souvent que les murs ont des oreilles.
Là-haut sur la colline.
Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
L'heure de la chronique consti, comme toujours, à la haut sur la colline. Mais là, on va rejoindre Patrick Taillon, qui est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, qui est dans une faculté de droit, d'ailleurs, je pense, à Gatineau.
Oui, exceptionnellement, accessoirement, aujourd'hui, à l'Université du Québec, à Gatineau, en Outaouais.
Parlons des négociations dans le secteur public. C'est pratiquement terminé. Patrick, il reste les votes, là, quand même. On pourrait peut-être retourner, ou théoriquement retourner, en grève pour certains syndicats qui pourraient refuser les hypothèses d'entente de principe.
Il ne faut pas sous-estimer la démocratie interne parmi les syndicats et les policiers, je crois, de la Sûreté du Québec.
Exactement.
Nous en ont donné l'exemple récemment.
Mais en tout cas, on peut dire que c'est plus avancé qu'au mois de décembre. Et, oui. Mais quand même, ça a créé plusieurs problèmes, ces grèves-là. Et plusieurs se demandent s'il ne faudrait pas revoir en entier le régime de négociation dans le secteur public et dans le secteur parapublic.
Oui, hein, parmi les leçons à tirer du mélodrame de décembre, il y a ce sentiment là qu'on a beaucoup sacrifié, particulièrement les salariés là, notamment du syndicat FAE, sans fond de grève pendant 5 semaines, aussi des élèves ou des usagers des services publics qui n'ont pas eu les services pourtant essentiels aux fondamentaux auxquels ils ont droit. Et là, on a un peu le sentiment que c'est un gros cirque, un long processus pour finalement arriver à des compromis louables, souhaitables, est-ce qu'on pourrait revoir le processus pour que cette phase des compromis arrive un peu plus vite? Le processus est tellement complexe que j'ai écouté, comme plusieurs auditeurs, avec bonheur ta chronique, ton entrevue sur parlez-vous le négociation, parlez-vous le négo.
Parlez-vous le négo, c'est une langue en soi là. Puis quand on a étudié les mots, on a oublié piste d'atterrissage.
Oui.
Et là, on a atterri un peu.
Piste d'atterrissage, table, tout, c'est des mots qui montrent que le processus connaît plusieurs étapes. Et devant le coût social, économique de la présente grève, le coût pour les salariés, pour l'État, pour les contribuables, il y a une réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait changer dans les règles du jeu du processus. C'est pas nouveau, puis généralement au bout de quelques semaines on met ça de côté.
Oui.
Mais prenons ce débat-là au sérieux. Essayons de voir qu'est-ce qu'on pourrait changer. En ayant pour point de départ un truc qu'on a déjà dit à ce micro, Antoine, c'est que les règles du jeu et les rapports de force en matière de négociation dans le secteur public, ils ont profondément changé. Hein, on l'avait dit au début du conflit, ça va être long parce qu'il n'y aura vraisemblablement pas de loi spéciale.
C'est ça.
La jurisprudence récente de la Cour suprême interdit grosso modo les lois spéciales contraires à la liberté d'association qui comprend la liberté de négocier, qui comprend le droit de faire la grève pour provoquer des négos. Et donc, certes, les droits sont pas absolus, on peut justifier. Les droits sont pas absolus, on peut y déroger. Mais le gouvernement du Québec a pas essayé de se justifier et de faire une loi spéciale, puis a pas essayé de faire une loi spéciale avec une dérogation. Puis on peut penser que pour un temps, ça va être encore comme ça, parce qu'en ce moment, c'est difficile de lire dans cette jurisprudence l'espace là de marge de manœuvre pour le législateur. Et donc, si on peut plus légiférer pour imposer les conditions de travail, ce qui est peut-être une bonne chose si ça permet à la négociation de suivre son cours.
Ben oui.
Est-ce qu'il n'y a pas des petits ajustements à faire dans ce nouveau contexte où les grèves seront par définition plus longues? Alors là, il y a des vieilles idées puis des nouvelles, mais il y en a pas des tonnes, hein. On peut les résumer assez vite. Il y a 3 ou 4 idées importantes. La première, ce n'est pas une idée nouvelle. Elle revient souvent. Elle a ses vertus puis elle a aussi son aspect toxique. C'est de revoir la démocratie interne des syndicats. Monsieur Stephen Harper s'était essayé de jouer dans ce film-là.
Okay.
Et donc, c'est de dire, le droit de grève est constitutionnel, il est protégé, il est sacré par la jurisprudence, mais attention, les conditions dans lesquelles on l'exerce, c'est pas n'importe comment. Il y a déjà des règles, c'est pas n'importe quoi. Mais il y a des règles imposées par les lois sur le travail, mais après ça, il y a une marge de manœuvre pour les syndicats pour se définir comme ils veulent. Alors, quand on voit, reportage de cette semaine, que la grève à la FAE a parfois été votée avec de très, très fortes majorités, mais des taux de participation qui jouaient entre 6 et 40 6 % pour voter une grève générale illimitée, c'est pas beaucoup.
On a éliminé les élections scolaires hein, au Québec en disant que les taux de participation étaient trop bas, puis c'était entre 4 et 6 %.
Moi, comme donc, professeur d'université, je suis fier de faire partie d'un syndicat qui a des règles internes sur comment déclencher une grève, qui, en dessous de certains seuils, impose un référendum. Et si on a une forte présence lors de l'Assemblée, on n'est pas obligé d'aller en référendum.
Ah, c'est intéressant,
Le problème de ces règles-là, c'est qu'elles sont souhaitables parce qu'elles appellent à une plus grande démocratie. Puis aussi, il y a des règles sur la transparence là-dedans. C'est pas normal que ces règles sur le quorum et sur les majorités et les taux de participation soient secrètes. Ça devrait être public. Oui. Mais en même temps, l'ingérence de l'État là-dedans peut être perçue comme quelque chose d'un peu anti-syndical. Autant c'est souhaitable d'avoir des règles plus transparentes et plus démocratiques, autant on peut s'attendre à ce que les syndicats réagissent très mal. Dans un monde idéal, c'est les syndicats eux-mêmes qui s'autodisciplineraient, mais s'ils ne le font pas, il ne faudrait pas se surprendre qu'un jour le législateur le fasse, et c'est un des premiers aspects de réforme possible. Le deuxième, Antoine, celui-là, on en a parlé, j'ai le souvenir d'une chronique dans le journal de Mario Dumont, mais c'est pas le seul, redéfinir la notion de service essentiel.
Oui, pour y ajouter l'éducation, notamment. Oui.
C'est pas évident, mais traditionnellement, les services essentiels, ça se justifie par les notions de santé et de sécurité.
Ouais.
Et donc, a priori, l'éducation échappe un peu à ce domaine-là. Mais là, c'est un peu l'ironie des circonstances qui sont les nôtres. On a un peu un débat à front renversé. Normalement, c'est les plus progressistes qui vont utiliser des notions comme santé et sécurité de manière très élastique pour donner des protections plus grandes.
Oui.
Et là, on voit plutôt des points de vue plus proches des intérêts patronaux dire, ben non, il faut faire le même exercice dans ce cas-ci pour justifier des exceptions, justifier des services essentiels au nom d'une conception plus élastique de la santé et de la sécurité. A priori, dans le contexte où les grèves dans le secteur public ont vocation à devenir longues, au bout de quelques semaines, c'est pas fou de dire que pour certains élèves en difficulté, comme pour des maladies très graves dans les hôpitaux, une absence de services essentiels, pas nécessairement à l'école régulière, mais un niveau de service égal à zéro, pour certains élèves en difficulté, ça peut compromettre à long terme une certaine sécurité psychologique, une certaine capacité de s'épanouir à l'école. Mais il faut prendre la notion puis jouer un peu à l'élastique avec. Et on sait que la jurisprudence est capable de donner beaucoup d'élasticité à ces
concepts-là. Tribunaux sont bons pour étirer, oui.
Mais est-ce qu'ils voudront le faire? C'est ça la grande question. Je pense qu'il y a le potentiel pour le faire avec le nouveau rapport de force. Mais en même temps, on n'est pas dans ce moment-là. Regardez cet été, on a eu à Québec, avec un conflit de travail dans le réseau de transport public, des décisions rendues sur les services essentiels qui étaient au contraire dans une logique d'interprétation très minimaliste de l'obligation de services essentiels.
Les tribunaux administratifs ont tendance actuellement à restreindre les services essentiels et à exclure certaines choses qui étaient évidemment services essentiels avant, notamment le transport en commun.
Et ils l'ont fait dans cette logique de continuité avec la jurisprudence plus généreuse sur les libertés syndicales, le droit de grève. Ils se sont appuyés là-dessus. Donc, on voit que si pendant des années, les libertés syndicales ont été plutôt restrictives sur le plan des chartes, puis ça donnait beaucoup de marge de manœuvre aux législateurs puis au gouvernement, là, on est peut-être dans le moment inverse. Et donc, même s'il y a une porte pour redéfinir la notion de service essentiel, c'est pas certain que la jurisprudence va emboîter le pas. Troisième série de réformes possibles.
C'est ça. L'arbitrage, peut-être? Plusieurs en ont parlé, mais ça fait longtemps. Moi, je me souviens, et j'ai revu là, notamment un éditorial du Devoir de 1989 où on discutait là, de l'intervention de Robert Bourassa pendant la campagne électorale, qui s'était posé la question, mais qui mène au Québec, les syndicats ou le gouvernement? Et vous devez voter là-dessus, avait dit Robert Bourassa. Et à la suite de tout ça, de ce débat-là, ben les gens se posaient la question, est-ce qu'il faudrait avoir l'arbitrage? Jacques Marc Parizeau, chef du PQ à l'époque, avait dit c'est une roulette russe, l'arbitrage. Donc, c'est un refus de la négociation, l'arbitrage, d'une certaine façon.
Ben, l'arbitrage, il y a deux façons de le voir. D'abord, est-ce que c'est politiquement opportun? Puis là, les remarques de M. Parizeau sont intéressantes. L'arbitrage, c'est on renonce à la négociation et donc c'est une perte de contrôle et du syndicat et du gouvernement pour mm-hmm. s'en remettre à un tiers. Mm. Et donc, oui, il y a une forme d'abdication du politique, de la solution négociée. Et donc, sur le plan de l'opportunité, il y a un risque, il y a un coût. Il faut savoir si c'est ce que les partis veulent comme solution. Mm-hmm. Mais sous l'angle, non pas de l'opportunité politique, mais sous l'angle du droit. Mais quand on regarde, là, on a des gouvernements et des législateurs qui ont les mains attachées par la nouvelle jurisprudence. Mais cette nouvelle jurisprudence, un des rares échappatoires qu'elle valorise, c'est l'arbitrage. Ah. C'est une jurisprudence qui adore le cas par cas, qui a confiance dans le judiciaire, qui a confiance dans l'arbitrage pondéré, proportionné, neutre. Et donc, c'est une jurisprudence qui, par exemple, dans les dossiers qui concernaient des syndicats de policiers, ont souvent dit, ben écoutez, c'est soit la grève et la liberté de négociation, et si vous voulez sortir de ça, ben d'abord, l'autre solution, c'est l'arbitrage, c'est de confier à un tiers.
Ouais.
Et dans certains dossiers, je pense à celui de la grève des juristes de l'État, on a dit « votre loi spéciale, elle est finement rédigée à certains égards, mais un de ses problèmes, c'est que au bout d'un certain temps, vous continuez à imposer les négociations. Si vous aviez plutôt ouvert la porte à ce qu'un arbitre intervienne en fin de parcours, votre loi spéciale aurait probablement passé le test. Mm-hmm. Donc, l'arbitrage sur le plan juridique, c'est une solution viable. Sur le plan politique, c'est un choix qu'il faut pondérer, mais ça fait partie des rares solutions. Dernière solution, je ne sais pas si dernier chantier, si je peux dire, je ne sais pas si le temps le permet. Alors ça, c'est plus une idée personnelle. Je ne sais même pas si c'est une conviction personnelle, parce que je te la lance amicalement.
Quelque chose que tu veux explorer, là.
Oui, pour provoquer un peu une réflexion. Mais une chose qui est certaine, c'est que normalement, dans le monde d'hier, le représentant de l'intérêt public dans les négociations aurait dû être le gouvernement. C'est le gouvernement qui est le gardien de l'intérêt public, qui est le gardien de l'intérêt du contribuable puis des citoyens. Mais dans la vraie vie, dans des démocraties un peu désenchantées, les citoyens cyniques d'aujourd'hui, lui, il est un peu écartelé. Il regarde, tout le monde négocie pour son bien. C'est lui qui paye à la fin, mais personne vraiment, lui, il est pas autour de la table.
Ouais.
On parle de la qualité de service, on parle du financement de tout ça, on parle de l'intérêt du contribuable, mais le contribuable se sent pas vraiment représenté par le gouvernement. Il sait pas pour qui prendre.
Quelle est cette solution mystérieuse, Patrick?
Ben, pour essayer d'impliquer un tiers, j'avance l'idée de, considérant qu'on met à peu près 62 % du budget québécois dans des salaires qui sont négociés, est-ce que ça serait pas excessif d'avoir une nouvelle personne désignée? On a au sein de l'État des organes qui sont là pour examiner, vérifier, contrôler.
Directeur général des élections, vérificateur général, commissaire à l'éthique, commissaire au lobbyisme, il y en a plein là.
Donc, est-ce qu'on devrait avoir un protecteur de la négociation et un vérificateur de la négociation qui serait pas comme un médiateur ou un conciliateur, parce que le médiateur, lui, il est là au service du règlement, au service des parties. Mon protecteur ou mon vérificateur de la négo, lui, il serait là un peu comme un vérificateur du budget à Ottawa ou comme un vérificateur général pour donner des chiffres, pour assurer un certain nombre de faits, pour témoigner auprès du public de ce qui se passe. Et s'il y a des délais, quels sont ces délais? À qui on les doit?
C'est formidable.
C'est une idée très transgressive, Antoine, parce qu'une des grandes faiblesses de cette idée-là, son aspect un peu révolutionnaire, c'est qu'elle rompt avec la culture du secret des négociations.
Ah oui.
Là, si on a comme citoyen un vérificateur qui nous dit ce qui se passe aux tables, qui nous fait rapport, mais ça veut dire que c'est plus confidentiel, les négos, et ça, c'est le grand tabou qu'on voudra probablement pas briser. Mais quand on regarde l'ampleur des budgets impliqués, le coût que ça impliquerait, peut-être que ça ferait plus de bien que de mal. Ça serait peut-être très cher pour ce que ça pourrait rapporter.
L'idée est lancée, Patrick Taillon, puis c'est bien intéressant. On va se pencher là-dessus. Je rappelle que tu es notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Alors, à la semaine prochaine.
Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.